France Info.
Bonjour Kylian Bron.
Bonjour.
Pour beaucoup de journalistes spécialisés, à travers vos vidéos, vous êtes une tête brûlée, un inconscient, un fou furieux, un vététiste et sportif de l'extrême jouant à pile ou face avec sa vie. Mais dans votre autobiographie, Le vélo m'a sauvé, paru chez Flammarion, on découvre que vous êtes tout l'inverse. Vous êtes quelqu'un de posé, aussi bien dans la vie que sur la selle, une personne déterminée, un fin observateur du monde finalement qui l'entoure aussi. Cette passion qui vous habite rime étonnamment avec le mot raison. Le titre Le vélo m'a sauvé est-il une réponse que vous souhaitiez apporter justement à toutes celles et ceux qui se posent la question de savoir à quel moment vous ne jouez pas avec votre vie, à quel moment vous n'êtes pas une tête brûlée.
Je défends effectivement tout l'inverse. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Et c'est vrai que je déteste être considéré comme une tête brûlée. Un raisonnement de surface que je peux entendre dans mes premiers échanges, mais j'adore prendre les devants et expliquer ma pratique, donner du sens à ce que je fais. Et j'ai pris le temps, là, aujourd'hui, d'écrire ces raisons. Et j'en suis fier, ça me fait plaisir.
En même temps, c'est vrai, quand on regarde vos vidéos, c'est vraiment l'extrême. Hein. On est sur des crêtes vertigineuses. Mm-hmm. On comprend qu'on est à flanc de montagne, que par moments, c'est pas ça casse ou ça passe. Mais en tout cas, si ça ne passe pas, c'est le drame assuré. Hein.
C'est vrai. Et dans ces moments-là, je le fais pas tous les jours, mais parfois... Ça m'arrive de me retrouver à des endroits que je choisis, hein. Je le sais, j'en ai conscience.
Et vous le racontez d'ailleurs dans cet ouvrage à quel point tout est vraiment déjà vérifié, même vous partez déjà d'une carte, mais à chaque fois il y a une étude qui est faite auparavant.
Complète, oui, de relief, d'endroits dans lesquels j'évolue, mais tout un process mental que j'explique aussi dans le livre, mais qui est un travail énorme, un travail en amont, moi, qui me plaît. Et j'ai presque envie de dire que c'est ce travail-là qui me plaît au-delà de l'espoir, entre guillemets, à l'image et du côté impressionnant de ce que je peux partager en image.
C'est Martin Fourcade hein, qui signe la préface. Mm-hmm. Il a beaucoup appris de vous. Il dit que grâce à vous, il a compris que l'instinct et la technique ne sont pas opposés mais complémentaires. Quand on acquiert une technique solide, l'instinct justement prend le relais.
Je le remercie déjà, Martin, pour ces mots. Hein. On est très bons amis. L'instinct est évident, je pense. Il y a une vraie part d'instinct. J'ai beau expliquer dans ce livre, et encore une fois, tout ce travail mental, tout ce process, mais je suis régulièrement confronté à prendre des décisions de manière très instinctive, sans laisser de place au doute. Quand c'est droite ou gauche, je peux pas rester bloqué à l'intersection. Je me dois de prendre une décision. C'est un travail, encore une fois, qui est ultra plaisant. Je fais le parallèle avec cette notion de pilotage. La moitié des compétences que requiert le pilotage passe par cette capacité à prendre des décisions en un claquement de doigts, donc en soi, l'instinct.
Ce qui est très étonnant, d'ailleurs, dans ce que vous racontez, Kylian, c'est qu'effectivement cet instinct il prend le relais, mais finalement il a toujours dicté votre vie, déjà tout petit. Vous racontez que vous avez évolué dans les skateparks et que finalement cette technique, cette précision, j'ai l'impression, elle vient de là. C'est ce qui vous a rendu plus solide, mais vous avouez également que vous n'avez jamais pris de cours et jamais eu de coach.
Non, je pense que j'ai une part autodidacte et pour plusieurs raisons. La première, elle vient de moi, de mon caractère, de celui que je suis, et j'ai réussi à trouver mon outil, le vélo et les endroits dans lesquels j'arrivais à m'exprimer. J'ai toujours eu ce côté aussi hors des codes, mais je pourrais aller plus loin, dire que je suis différent, mais je l'ai jamais fait en me disant je vais être différent pour être différent. J'ai simplement mis du temps à m'assumer, à m'affirmer et me dire que ce que je faisais, c'était vraiment moi. Et j'avais pas envie d'être dicté par des pressions sociales particulières ou j'ai voulu évoluer comme je le sentais, encore une fois, à l'instinct. Et ça m'a conduit là où je suis aujourd'hui.
Vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup. Hein. Encore une fois, Martin Fourcade le souligne. Ça. Il dit que vous l'aidez à repousser ses limites. Est-ce que c'est pas là où le bas blesse, justement? C'est-à-dire qu'on repousse nos limites, mais beaucoup souhaitent vous imiter, souhaitent justement affronter une sorte de temporalité. C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce qu'on affronte l'espace, on affronte la nature, on s'affronte soi-même en même temps.
Oui, pour faire ce parallèle avec Martin, bon, ça me touche. Et moi, je le respecte énormément pour ce qu'il a fait dans sa carrière. Mais c'est vrai qu'on a des caractères et des manières de faire et de vivre qui sont différentes. Je pense que c'est ce qui a fait aussi notre amitié avec les années. Ouais, j'ai du mal à l'expliquer là en plus de mots, mais y a beaucoup de respect dans tout ça.
En tout cas, de repousser les limites, c'est ce qui vous motive hein, quand même. Hein,
y a le fait, oui, de repousser les limites, mais je pense qu'il faut aussi savoir être conscient de toutes ces prises de risques que je prends. Disons que moi, j'ai peur. J'ai peur dans tout ce que je fais, dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, mais ça me permet d'être en alerte et de pas me perdre, de pas En tout cas, c'est ce que j'essaye de pas risquer ma vie quand je suis confronté à des actions et des moments qui sont dangereux. Et je suis pas dans une quête de repousser mes limites au quotidien. Je suis plutôt dans une quête de me dire, je veux connaître mes limites, je veux savoir où est le 100% du curseur, mais j'évite au maximum de dépasser 100%. C'est un équilibre qui est fin, et parfois on fait des erreurs. J'en ai fait, mais c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. De trouver ce curseur et de le mettre au bon niveau.
Vous êtes un peu comme un funambule, hein. Ça bascule d'un côté ou de l'autre, c'est un point d'équilibre, mais encore une fois, c'est compliqué. Vous avouez être traversé par des lubies, des curiosités, des envies qu'il faut assouvir. C'est plus fort que vous, ça ?
C'est en moi et c'est comme ça que j'ai grandi. C'est certain, je suis un grand rêveur. Ces rêves, j'essaye de les concrétiser. Il peut y avoir un brin de folie, un brin de rêve, mais en soi, ça a été ma motivation première. Dès le début, j'ai presque envie de dire ma manière de m'évader première, de construire ses rêves et ensuite de faire en sorte de les concrétiser. Je dis pas que le chemin était facile et des fois la réalité me rattrape, mais c'est en moi.
On comprend mieux qui vous êtes à l'intérieur de cet ouvrage. Vous vous adressez finalement à toutes celles et ceux qui ont un parcours un peu similaire au vôtre, qui ont vécu des choses un peu comme les vôtres. Cette histoire familiale, elle est assez compliquée. Votre père était très absent parce que absorbé par son travail. D'un côté, vous aviez une maman qui était finalement très jeune, assez dépressive. Et vous avez trouvé, et c'est pour ça que le titre est très fort, dans le vélo, une solution de vous sauver, une solution de vous protéger, Kylian.
C'est ça. Et je tiens à me souligner, c'est important, toutes ces paroles et tout ce que je décris dans ce livre, rien n'est gratuit.
C'est pas un procès non plus.
Non.
C'est juste vous poser ça là.
Je mets des mots pour donner des explications et faire des liens sur mes choix de vie. Si je mets ces mots aujourd'hui sur papier, c'est aussi pour inspirer. Alors je dis pas que j'ai inspiré tout le monde à travers tous mes discours, mais si j'arrive à le faire parsemé dans quelques chapitres, à travers quelques paragraphes, c'est une réussite. Mais oui, clairement, ces tourments familiaux m'ont pesé. Ça peut encore me peser. Il y avait aussi une part de travail introspectif en rédigeant ce bouquin où j'ai pris le temps de me poser, de faire ces liens, comme je les expliquais jusqu'avant, et d'essayer de grandir de tout ça. Et de me dire que finalement, aujourd'hui, je m'estime chanceux. Bon, bien sûr, il y a eu du travail et rien n'est gratuit aussi à ce niveau-là. Mais je suis content de ma vie aujourd'hui. Je m'estime heureux. Et pour conclure, j'ai aussi vécu des moments de vie familiaux tout à fait normaux et heureux. J'ai des souvenirs de vacances avec ma sœur et mes parents qui étaient incroyables et je les garde en tête. Mais j'ai un caractère qui a tendance à retenir les moments les plus forts, qu'ils soient positifs, comme je les ai expliqués là, ou négatif, ça a pu prendre le dessus sur quelques épisodes douloureux.
Vous racontez effectivement que votre père vous a toujours aimé, mais il était très dur, parfois violent. Votre maman, elle, effectivement, avait besoin d'être aidée, d'être accompagnée. Et en même temps, ils vous ont toujours soutenu. Ils ont d'ailleurs financé un vélo qui coûtait très cher à un moment donné. Bon, vous aviez travaillé à côté parce qu'il y a beaucoup de casse. C'est vrai que vous avez toujours fait des choses un peu particulières. Donc évidemment, le vélo a pris très très cher par moment. Heureusement, ça n'a pas toujours été que vous, parce que vous avez aussi cassé beaucoup de choses en vous. Donc ça, par contre, ça vous a valu quelques petits moments de réparation, on va dire. Est-ce que cette rigueur, étonnamment, Kylian, je me suis posé la question en lisant cet ouvrage, est-ce que cette rigueur que votre père avait de militaire ne vous a pas servi finalement à créer une sorte d'abnégation telle que vous ne vous êtes jamais autorisé à ne pas être bon dans vos trajectoires, dans vos décisions ?
Si, c'est évident. Mon éducation des premières années, que j'expliquais avant même la rédaction de ce livre, je disais, c'est quelque chose dont je suis convaincu, j'expliquais que 70-80% de ma personnalité, de l'homme que je suis aujourd'hui, est conditionné de mon éducation. Je pense qu'il y a 20% qui sont moi à la naissance et le reste est construit par mes premières années. Donc forcément, cette rigueur que mon papa m'a imposée dans les premières années, je peux sur certaines facettes le remercier aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis, avec cette même rigueur, je pense, d'évoluer dans ma vie professionnelle et sur le vélo et de faire aujourd'hui du vélo mon travail, bien que ce soit encore et ce sera toujours une passion tant que je serai sur le vélo.
Vous démarrez ce livre en nous racontant qu'à 26 ans, vous avez pris une décision, c'est de quitter l'équipe dans laquelle vous étiez pour créer une autre aventure finalement, avec notamment Isabeau Cordurier. Vous la saluez beaucoup, hein. C'est la multiple championne du monde d'enduro, une des disciplines de VTT qui consiste à enchaîner des essences chronométrées appelées spéciales sur des parcours variés, avec également son compagnon à vos côtés. Vous vouliez pouvoir proposer des vidéos, en tout cas, explorer des cartes et identifier des zones insolites pour rider. Il y a aussi un côté très expédition et aventurier dans cette démarche depuis le début.
C'est clair, mais en fait, cette notion d'évasion, elle n'a fait que grandir au final avec les années. Du skatepark, aux forêts, aux sommets que je pouvais voir de la maison, j'ai juste étendu mon territoire, élargi ma vision du voyage et je l'ai étoffé par la même occasion, par toutes ces rencontres, de pouvoir y emmener mes amis, qui sont aussi des personnes avec qui je travaille, de caméraman, de photographe, et d'ajouter aussi du fond des histoires ces dernières années. Au-delà de l'aspect visuel, impressionnant, aujourd'hui, c'est ma priorité, en tout cas dans le cadre de mon travail. C'est de partager, mais de partager dans un spectre qui est beaucoup plus large.
D'ailleurs, vous racontez votre première mission, parce que vous appelez ça comme ça, le Cerro Blanco. Ouais. Là, on est sur la plus haute dune d'Amérique du Sud, hein, qui se trouve à 2078 mètres de hauteur pour dominer le désert péruvien et surtout pouvoir vivre une expérience extrême, ancrée dans votre mémoire d'ailleurs. Vous avez compris assez vite qu'effectivement, à travers cette expérience, ce qui vous plaisait, c'était l'envers du décor. C'était les rencontres. Et d'ailleurs, c'est ce que vous racontez, c'est que ce qui vous motive aussi, c'est que vous découvrez à travers vos différents périples des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées auparavant et que ça vous permet aussi d'aller découvrir des paysages magnifiques où très peu sont allés.
Et c'est une chance. J'ai ces souvenirs qui sont ancrés, d'autant plus aujourd'hui de les avoir écrits. J'en laisse une trace qui restera. Le Cerro Blanco a été le premier. Puis on a enchaîné avec notre premier 6000 mètres. Donc pouvoir gravir un sommet à plus de 6000 mètres d'altitude en vélo et le descendre dans son intégralité.
Avec le vélo sur le dos, je le précise, et par moments avec un vélo gelé, et vous vous demandiez d'ailleurs si vos freins hydrauliques allaient tenir. Enfin, c'est assez impressionnant de voir l'envers du décor, effectivement. Enfin, de le découvrir par écrit.
Et j'essaye de le décrire comme ces images me viennent encore en tête. Et moi, le premier, de me remettre dedans en écrivant ces souvenirs, c'est incroyable. Et c'est ce qui me motive encore aujourd'hui. Pourquoi je garde cette motivation et cette envie de poursuivre ces sommets inédits ou ces manières de faire du vélo dans des endroits insolites, c'est aussi par l'addition de tous ces souvenirs et c'est comme ça que je me sens vivant tout simplement.
Je voudrais qu'on parle du vélo justement, vous nous racontez à quel point c'est votre point d'ancrage, hein. C'est votre meilleur ami, c'est votre plus grand confident, c'est la personne entre guillemets parce que c'est devenu une personne sur laquelle vous pouvez le plus compter ou pas d'ailleurs. On comprend qu'il y a un lien énorme avec le vélo. Votre premier vélo, c'était un Peugeot rouge qui avait été offert par vos grands-parents.
Oui,
vous en rappelez comme si c'était hier, c'était un vélo tout terrain. Vous avez compris ce jour-là que lui et vous alliez être très très liés, très très proches.
Et je pense qu'il y avait un côté aussi d'être impressionné à cet âge-là. Je me remets dans ma peau du petit enfant que j'étais il y a déjà quelques années, où j'étais juste impressionné par le gros cadeau. C'était un outil, ce vélo, qui m'impressionnait. Parce que j'ai toujours eu un rapport aussi matériel et mécanique de comprendre comment ça fonctionnait. Et j'avais un vélo qui était plus grand que moi et ça m'impressionnait et j'avais envie de le dompter et de l'apprivoiser et d'en faire ma continuité pour aujourd'hui ne faire qu'un avec lui. Et j'ai une relation particulière avec ce vélo, c'est clair, et pourtant je suis quelqu'un de très cartésien. Il y a quelque chose de différent avec ce vélo là. Je dis ce vélo, hein, mais c'est l'addition de mes vélos, j'en ai un peu trop mais le rapport est toujours le même.
Vous a permis d'exister, hein, ce vélo, de vous exprimer, c'est votre moyen d'expression
numéro un.
On comprend ça, que vous êtes devenu l'homme que vous êtes devenu à travers ça, à travers ce moyen d'expression qu'il vous a offert.
C'est le cas. C'est encore le cas aujourd'hui. Je pense que très simplement, c'est mon moyen d'expression numéro un et je pense que ça restera.
Une chose, malgré vos exploits, votre coup de folie de risque que cela engendre a toujours régulé votre passion, c'est effectivement la peur, Kylian. Alors, sincèrement, quand on regarde vos vidéos, on n'y croit pas un seul instant.
Et, si.
Et pourtant, vous appuyez vraiment sur la peur dans cet ouvrage, vous précisez les choses, vous les marquez bien. Ouais. Elle se manifeste comment, cette peur, et vous la domptez comment alors?
Alors déjà, je me suis jamais construit de personnage particulier où je n'ai jamais eu honte à partager mes peurs. Et y compris avec mes adversaires ou mes concurrents sur des lignes de départ de course, j'ai toujours été très sincère et authentique à ce niveau-là. Et je pense que j'ai toujours pris plaisir à partager cette peur. Et de l'expliquer, de questionner les autres, de leur demander comment eux domptaient cette peur ou arrivaient à vivre avec. Et jusqu'à comprendre que cette peur était essentielle pour ma vie en soi, quand je prends des risques qui peuvent être aux yeux des autres démesurés. Et je l'ai dit un petit peu avant, mais cette peur me permet d'être en alerte. Elle me permet de me concentrer. Elle me permet, cette boule au ventre que j'ai régulièrement, me permet de me dire, Kylian, là, c'est le moment. Rentre dans ta bulle. Ce fameux process que je décris souvent, qui me permet de faire les choses bien. Ce qui ne veut pas dire que j'enlève tous ces risques. Le risque est là. Et je suis bien plus exposé que d'autres personnes, et je le sais. C'est des paroles aussi que j'aime partager, enfin que je partage et que j'ose partager à mes proches, à mes amis. Je peux côtoyer la mort quelques journées par an, et j'en ai pleinement conscience, mais je le fais aujourd'hui de manière beaucoup moins égoïste suite à des accidents, mais je ressens ce besoin d'expliquer, de partager, de demander la validation sans trop l'imposer. J'essaie de trouver le bon équilibre pour pouvoir continuer, moi, ce qui me fait vibrer par-dessus tout.
Vous parliez de la mort. Le spectre de la mort de vos proches vous a toujours angoissé. Vous avez d'ailleurs réussi à surmonter un cancer que votre mère a eu, vous le racontez dans cet ouvrage, par ce vélo qui vous a rendu aussi beaucoup plus fort. Quel rapport vous entretenez donc avec la grande faucheuse ?
Au global, j'ai toujours été attiré par les sujets qui me faisaient le plus peur. Le vélo, qui était un sport que je regardais en me disant que c'était l'un des sports, pour moi, de ma vision, les plus difficiles sur l'aspect sportif. De pouvoir m'exprimer, comme je le fais encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi, que j'ai travaillé mais qui me fait peur, et je suis attiré par ça. Et la mort, elle me fait peur, comme nous tous, j'imagine. Mais de pouvoir, j'aime pas vraiment ce mot côtoyer, mais en me rapprochant d'elle, j'arrive à mieux la comprendre, et j'arrive encore une fois à jauger mon curseur. Mais je ressens ce besoin de savoir ce qu'elle a à nous dire.
Ce qui ressort de cet ouvrage, c'est que par moment, j'ai eu le sentiment que vous aviez besoin de vous affronter vous-même, de vous repousser vous-même systématiquement dans vos retranchements. Et plus vous allez loin, plus vous vous repoussez dans vos retranchements pour finalement peut-être finir par vous trouver. Et en refermant le livre, on comprend que vous êtes trouvé aujourd'hui.
C'est ça, et je pense qu'il y a aussi une question de confiance en soi, peut-être de recherche de confiance en soi permanente, qui était moins assumer, affirmer dans mes années précédentes, mais aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça, jusqu'à l'exposer clairement, de manière très authentique, sincère. Et j'ai eu ce sentiment aussi en mettant un point qui n'est pas un point final. C'était le bon moment de le faire.
Donc en tout cas, ce qu'on comprend à la fin du livre, c'est effectivement, vous le dites, vous posez les mots. Vous avez trouvé a priori l'âme sœur, vous avez un point d'équilibre aujourd'hui. Cette vie de nomade qui vous a permis de, entre guillemets, de fuir et de vous protéger est devenue une soif de vie, une soif d'envie de construire une famille. Il a provoqué quoi ce livre autobiographique ?
C'était une réponse, j'aime pas dire un chapitre, ou c'était juste à ce moment-là. Aujourd'hui, la retranscription la plus juste de celui que je suis et qui me permettra de débuter, ou en tout cas d'aller peut-être un peu plus vite sur ma vie personnelle que j'ai eu tendance à mettre de côté pendant toutes mes années de voyage, de projets vidéo. Je suis parfois un acharné du travail en oubliant le reste. Et le reste, c'est la base, c'est le plus important, c'est quelque chose que j'ai compris, mais mine de rien, récemment. Ça peut me permettre d'aller plus vite et de me poser moins de questions.
Donc le Kylian qui s'est toujours occupé des autres plus que de lui-même va enfin s'occuper de lui aujourd'hui et construire quelque chose d'autre et transmettre à son tour avec moins de rigueur et moins de dureté.
Ah oui, bon là il y a encore un peu de travail.
C'est vrai.
Mais disons que si on peut aller dans ce sens-là, ouais, ce serait l'idée.
Bon, pour terminer, ce livre, il montre une chose, c'est à quel point il est important de trouver sa passion pour pouvoir s'exprimer et son moyen d'expression.
Il y a souvent des mots que je répète au quotidien et le mot passion en fait partie, c'est la base.
Donc si vous regardez les vidéos de Kylian Bron, vous pouvez voir en sous-titre qui n'apparaît pas mais qui est très important, c'est qu'on ne fait ça que quand on maîtrise ce vélo. Et effectivement, quand on vous voit, Kylian, on se dit que c'est incroyable de réussir à faire ça avec un vélo. Je rappelle que vous avez démarré avec le BMX, donc ça va rappeler plein de bons souvenirs à toute une génération qui a commencé comme ça. Et que le VTT, ça peut être aussi une arme, donc il faut faire super attention et il faut savoir maîtriser l'engin.
Et une arme contre les autres et contre soi aussi. Les choses se font par étapes, sans les griller et par passion.
Merci beaucoup Kylian Bron d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Votre autobiographie, Le vélo m'a sauvé, est disponible chez Flammarion. Merci.